Je suis Ismahan El-Wafi. Je suis la scientifique chef pour l'organisation, le FAO. C'est l'organisation, l'Agence tunisienne d'agriculture et d'alimentation.
Et donc, nous sommes en pleine période de l'Assemblée générale où les 193 membres des Nations unies se réunissent en ce moment. Donc, la FAO va tenir une réunion de haut niveau cette semaine, le 23 septembre, sur justement les systèmes alimentaires. Donc, peut-être pour commencer, quelle est justement l'importance de ce sommet et quelles sont les attentes de la FAO?
Le sommet est très important. Le sommet est important surtout parce que enfin on est en train de parler du système alimentaire. On n'est pas seulement en train de parler agriculture ou d'une portion du système, mais en sa totalité. Ça fait quelques années on a commencé à parler de valeur de chaîne. Mais quand tu parles valeur de chaîne, encore tu es en train de voir vraiment la production et la transformation de ce produit agricole. On n'est pas allé aussi loin. Mais là, quand on parle de système, on parle de l'énergie dans le système, on parle de l'eau dans le système, pas seulement côté agriculture, mais toutes les autres parties du système. On parle de transport, on parle de logistique. Alors, c'est vraiment beaucoup plus large. Et je crois que c'est ça la nouveauté dans le sommet, c'est que on ne va pas parler juste aux acteurs qu'on connaît et qui font partie de la valeur de chaîne, mais on va aller au-delà. On va parler avec, par exemple, les ministres de santé sur le côté nutrition et côté santé. On va parler au transport avec les ministères de transport. Alors, le système est beaucoup plus complexe, mais c'est la seule manière de changer l'impact et de changer la performance d'un système. C'est vraiment prendre tous les acteurs, les mettre ensemble et analyser ensemble comment on peut transformer le système avec l'aide de tout le monde pour que ça soit plus efficace, pour que ça soit plus inclusif, pour que ça soit plus résilient au changement climatique et autres, et pour que ça soit plus équitable. Parce qu'on a vraiment un grand problème d'équitabilité, on a un grand problème de résilience, on a un grand problème d'efficacité. On n'est pas en train de produire assez pour tout le monde, surtout côté nutrition. On ne parle pas juste calories, mais on parle calories et nutrition. Alors, les attentes, c'est que vraiment, une fois qu'on parle au niveau système, c'est que les acteurs s'engagent et qu'on se met d'accord sur des actions qui vont vraiment transformer les systèmes alimentaires vers des systèmes plus efficaces, plus résilients, plus inclusifs et plus équitables.
Et où en est-on justement dans ces systèmes alimentaires? Est-ce que la situation est grave justement?
La situation est très, très grave parce que, vous voyez, la population du monde n'arrête pas de grandir. On n'a pas assez de ressources. Les ressources, surtout du côté eau, mais aussi des côtés nutriments et inputs, il y a une limite à la planète Terre. Il y a le changement climatique et les variabilités qui sont partout. Normalement, on connaît les changements climatiques dans certaines parties du monde, surtout dans le monde désertique. Mais là, on a des problèmes un peu partout. On a vu des inondations en Belgique, on a eu des inondations en Chine, on a eu des feux de forêt partout. Alors, vraiment, le changement climatique, il y a le rapport du IPCC qui est sorti, ça fait un mois. Et ce qu'ils ont montré scientifiquement, c'est que le changement climatique s'intensifie et s'intensifie partout. Alors, ça peut être en forme d'inondation, comme ça peut être en forme de sécheresse, comme ça peut être en forme de grêle, comme ça peut être d'autres formes. Mais c'est un peu partout. Il n'y a aucune région gagnante. Tout le monde est perdant dans ça. Et le rapport également nous a dit qu'on a encore la chance de garder l'augmentation en température à 1,5. Mais si on veut le faire, il faut faire vite, il faut faire des actions différentes. Sinon, on est dans le scénario 2 degrés ou 4 degrés. Et même à 1,5, on ne va pas survivre parce que ce qui arrive, c'est que pour produire, tu as besoin plus d'eau. Pour produire, tu as besoin de plus de choses. Alors qu'on est tous en train de chercher comment on peut produire avec moins, pas produire avec plus. Alors la population augmente, les ressources sont très limitées, les changements climatiques et la variabilité est plus intense. Et nous, la solution, c'est que vraiment, on regarde l'efficacité de nos systèmes et qu'on les change dramatiquement pour que on produit assez pour tout le monde, comme j'ai dit, côté calories, mais aussi côté nutrition, et qu'on produit avec moins d'input, surtout côté ressources naturelles.
Et comment justement la science, l'innovation, les technologies peuvent transformer justement ces systèmes alimentaires?
C'est la seule solution que nous avons. Vraiment, la seule chose qui pourra nous aider à produire plus avec moins, c'est utiliser la science et utiliser toutes les sciences. Il n'y a pas une science mieux que d'autres. Il y a les sciences biologiques, il y a les sciences naturelles, il y a les sciences sociales. On doit vraiment utiliser la science et l'innovation aussi. Parce que vraiment, ce qu'on doit faire, c'est aller chercher dans la biodiversité les meilleures plantes pour nous. Dans le marché international, il y a 125 espèces de manger dans le côté plante, je parle. Alors que dans la réalité, dans la nature, on a plus que 400 000. Alors, on est trop minimaliste en quelque sorte. La nature nous a donné tout. On a 400 000 plantes et dans le marché, on est en train de se limiter à 125. Et ça, c'est pas bon. Alors, on doit aller chercher dans la biodiversité ce qui nous servira mieux. Il y a plusieurs plantes qui étaient mangées par nos ancêtres, mais nous, on les a délaissées. Quand tu regardes ces plantes-là, ils produisent plus côté nutrition. Ils sont plus résistants au changement climatique parce qu'ils n'ont pas été améliorés juste pour produire plus sous un système bien spécifique. Ils ont survécu pendant des milliers d'années sur différents systèmes. Alors que nous, l'agriculture, on l'a vraiment limitée énormément dans un cadre très spécifique. Et du coup, ce qu'on est en train d'utiliser, c'est un pourcentage très, très, très faible de la biodiversité. C'est même pas 0,5%. Et en même temps, ces espèces que nous sous-utilisons, on les a façonnées de manière à ce qu'ils produisent sous un système spécifique. Alors, il faut qu'on utilise la science pour aller dénicher cette biodiversité, mais aussi, il faut qu'on utilise la science pour augmenter la productivité dans les espèces qu'on va ramener. Et là, la science est très importante. Alors, utiliser la science pour développer les bonnes variétés dans un beaucoup plus grand nombre d'espèces. On a besoin de multiplier notre biodiversité au moins par 20. Et ça va aider côté calories, côté nutrition, côté produire plus avec moins. Mais aussi, ça va s'aligner avec notre culture. La diversité des humains était basée sur la diversité de leur manger et de leur productivité et de leur système productif. Alors, on est en train de minimiser ça. On est en train de perdre des langues, on est en train de perdre des cultures traditionnelles. Alors, ramener ça, ça va aussi te ramener le côté humain, le côté culturel.
Et pourquoi justement l'égalité des sexes est essentielle à la transformation de notre alimentation future?
C'est important pour une raison très, très, pour moi, c'est de principe. C'est le fait que la femme est la moitié de la population sur la planète Terre. Alors, ça va de soi. On ne doit pas y penser. L'autre raison qui est très importante, c'est que la femme est très proche de la nutrition. Parce que la femme, normalement, est elle qui décide qu'est-ce qui se mange côté maison. C'est elle, normalement, qui, par défaut, ou par nature, ou par biologie, fait attention plus aux enfants et à leur nutrition. Alors, la femme est plus proche de prendre des décisions quotidiennes de ce qui se mange et comment ça se mange. La troisième raison, c'est que vraiment les études sociales ont montré, si tu veux améliorer la vie d'une famille, améliore les revenus et les connaissances de la femme. Parce que tu investis dans une femme, tu es en train d'investir dans la famille. Et ça, il y a plein d'études qui ont montré ça. Alors, il faut qu'on investisse dans la femme parce que on sait que le return on investment va être beaucoup mieux pour nous. Et parce que aussi, malheureusement, quand on regarde dans la pauvreté, on parle dans la marginalité, on trouve que la plupart sont des femmes. Alors, tout ça pour dire qu'il y a besoin d'un changement vraiment de profondeur pour donner à la femme ses droits et pour donner à la femme l'opportunité de vraiment jouer son rôle à plein dans la sécurité alimentaire, dans la sécurité nutritionnelle pour elle et son peuple.
Il faut aussi qu'elle soit impliquée aussi dans les prises de décision, justement, dans les systèmes alimentaires, n'est-ce pas?
Absolument. On a besoin de femmes qui comprennent les situations au plus haut, au plus niveau. Et on n'a pas besoin de 1, 2, 3. Ça devrait être 50-50%. Alors, c'est bien beau qu'il y il y a des pays qui mettent le target à 30 % à 20 % à 25 %, mais non, ça ne reflète pas la population. Le normal, c'est 50-50.
Et pensez-vous que les jeunes aussi ont un rôle important à jouer dans ce changement des systèmes alimentaires et comment engager ou réengager les jeunes dans ce problème? Est-ce qu'ils sont déjà engagés?
Il faut les engager beaucoup plus. Je crois que les jeunes, au fil des années, ont perdu l'intérêt pour l'agriculture. Parce que l'agriculture est restée plus traditionnelle que d'autres secteurs. Parce que l'agriculture est restée plus liée à moins de formation, à moins de technologie, à moins de revenus aussi. Et ça fait qu'au fil des années, les jeunes, une fois qu'ils sont éduqués, une fois qu'ils ont d'autres opportunités, ils vont aller choisir d'autres secteurs. Alors, ce qu'il faut faire, c'est ramener le côté intérêt, côté innovation, côté technologie et monétaire également à l'agriculture. Et c'est comme ça qu'on va ramener les jeunes dans le food system. Et quand on parle de food system maintenant, on parle au-delà de l'agriculture aussi. Moi, j'ai toujours pensé qu'on limite les villages à la production. Souvent, tu produis dans un village, tu transportes tout à la ville et tu fais la transformation à la ville, tu fais le marketing à la ville, tu le vends dans les supermarchés en ville. Et ça, ce n'est pas très bon parce que quand on regarde la courbe de return on investment, tu te rends compte que les gens au début, en l'amont de la valeur de chaîne, sont les moins payés. Quand tu pars au supermarché, c'est là que tu as vraiment le plus gros revenu ou return on investment en soi-même. Alors, ce qu'il faut faire, c'est ramener une partie de cette valeur de chaîne au niveau du village. Maintenant qu'on a vraiment un peu plus d'infrastructures, un peu plus d'énergie ou de sources d'énergie renewable un peu partout, il faut qu'on ramène, lui, une partie de la valeur de chaîne, une partie du food system dans le village. Et il faut attirer les jeunes vers ça à travers l'innovation. Maintenant qu'on parle de transformation, on dit que cette transformation est seulement possible si on utilise la science et l'innovation. Et là, on a besoin des nouvelles idées. On a besoin des jeunes parce qu'ils sont la source de l'innovation. Parce que c'est eux le futur. C'est eux qui vont nous dire qu'est-ce qu'il faut faire mieux. Alors vraiment, le côté innovatrice du système, la transformation qui a besoin d'innovation, fait qu'on a besoin des jeunes. Ce n'est pas juste qu'il faut les engager. C'est eux qui doivent être à la tête du changement. Et on a vu des choses merveilleuses un peu partout dans les dialogues à travers les pays. Mais il faut le faire plus. Il faut, la masse critique de tout ce qu'on fait doit être amplifiée. On a besoin vraiment de milliers et millions de jeunes d'être plus intéressés au food system et de nous aider à la transformer sur la base de science et innovation.
Justement, on parle de science et d'innovation, mais il faut aussi que les pays acceptent que le changement climatique est ici, qu'on a besoin justement de changer. On ne peut plus se mettre la tête dans le sable, comme on dit, n'est-ce pas?
Absolument. Tout en fin de compte est possible ou pas possible selon la réception des décideurs de ce qu'on est en train de dire. Alors, de nos jours, le changement climatique n'est plus une question, il n'est plus vraiment à débattre. Ce qu'on est en train de débattre, c'est l'amplitude. On est à 1,5 degré, ou on est à 2, ou on est à 4. Alors, ce n'est pas est-ce que ça n'existe pas. Alors là, c'est impératif pour les décideurs et pour le gouvernement de vraiment écouter et de mettre en place les politiques, de mettre en place les programmes qui pourront nous permettre de transformer le système. Je donne un exemple. On parle maintenant des grands problèmes de malnutrition. Et ce problème de malnutrition, maintenant, est devenu depuis la malnutrition qu'on connaît, où on a plusieurs jeunes qui n'ont pas les nutriments nécessaires pour grandir à leur potentiel, comme la vitamine A, comme le zinc, comme le fer. On a ça, on a un grand problème là, surtout dans les pays en voie de développement, mais on a aussi l'obésité. Et on a beaucoup de problèmes de malnutrition qui est dû au marketing de fast-food, des mangers qui n'est pas bon. Et là, le gouvernement a tous les pouvoirs de vraiment s'assurer que le privé n'a pas des facilités pour faire du manger qui n'est pas nutritionnel. Au contraire, qu'on incentivise le privé pour faire du manger qui est nutritionnel. On incentivise et qu'on pénalise s'ils font des choses qui sont trop sucrées, qui ne sont pas nutritionnelles. Alors, le pouvoir du gouvernement est énorme. Et c'est pour ça que ces réunions-là sont très importantes pour aligner différents pays dans leur politique, dans leur stratégie, pour qu'on parle le même langage. Ce n'est pas qu'on pourra vendre des choses ici, mais pas ici. Qu'on ait un standard pour le Nord et un standard pour le Sud. C'est inacceptable et ça existe toujours. Ça existe dans le tabac, ça existe dans plein d'autres choses. Alors, on doit arrêter ces doubles standards, triples standards et avoir vraiment un standard qui fait qu'on reconnaît les défis et voilà les solutions et voilà les politiques pour s'assurer qu'on va tous dans le bon sens.
Hélas, les inégalités existent partout et ça coûte cher de bien manger, n'est-ce pas, dans beaucoup de pays. Je sais qu'aux États-Unis, bien manger coûte cher pour certaines familles. Donc, comment arriver à sensibiliser tout le monde sur cette question-là? Je pense que c'est tellement important, n'est-ce pas?
Absolument. Florence, les données font qu'on sait qu'on a 3 billion people, 3 milliards de personnes qui ne peuvent pas se permettre du manger nutritionnel. Alors, c'est un chiffre énorme. C'est vraiment presque 40% de la population. Et le pourquoi, c'est qu'on a un côté de pauvreté, et c'est dû aux inégalités encore, mais il y a aussi un côté qui est plus dû à malinformation sur ce qu'il faut manger et pas manger. Alors, il y a le côté de inégalité, le côté de revenus, pauvreté et ainsi de suite, mais aussi il y a le côté connaissance. Alors, je crois que c'est une des choses qui sont très importantes, c'est ramener le privé sur la table, parler avec le privé et les responsabiliser. C'est pour ça que je parle d'incentiviser et de pénaliser. Il faut qu'ils soient responsables parce que le privé est le seul qui est capable de faire les choses qui ont un grand impact. Et je m'en souviens, une fois, j'avais un board of directors en Inde et un de nos amis dans le board of directors de IFP, il est parti dans les villages et il a été choqué, il nous a envoyé des photos. Le snacks, les unhealthy snacks, comme les chips et tout ça, sont arrivés dans les villages les plus loin de la route en Inde. Et ça te montre le pouvoir du privé, le pouvoir du privé d'aller un peu partout. Si on regarde la digitalisation maintenant, qui est vraiment très forte dans plusieurs pays, elle est forte parce que le privé est là, parce que le privé a mis en place le système de communication qui n'a jamais été public, il a été toujours privé. Alors, le privé pourra nous permettre de faire des changements grandioses. Mais il faut qu'ils soient de notre côté. Il faut qu'on comprenne, il faut qu'on leur parle, il faut qu'on dialogue avec eux et qu'on trouve un compromis où il y a bien sûr des revenus à grande échelle pour l'industrie et pour le secteur privé, mais en même temps, on est en train de sauvegarder notre planète et sauvegarder la santé des personnes et des autres espèces aussi. Hein.
Ismahan Elouafi, donc vous êtes scientifique, quelle est l'importance d'être femme scientifique?
Je crois que c'est comme dans tous les secteurs encore. Par défaut, on devrait être moitié, 50-50, comme je l'ai dit ailleurs, Florence. Alors, pour moi, la femme, elle doit être partout. Elle doit être dans tous les domaines. Elle doit être dans tous les niveaux. Elle doit être dans le côté politique, dans le côté scientifique, dans le côté social, dans n'importe quelle communauté. Alors, parce que nous sommes 50% de la population, on devrait être partout, plus ou moins un pourcentage qui est tout près de 50%. Peut-être à travers l'histoire, il y a eu plus d'opportunités pour les hommes à prendre certaines positions, que ce soit dans la science ou dans d'autres secteurs. Mais vraiment, et c'est pour ça que je suis toujours pro discrimination positive pour la femme. Parce que je crois que ça nous prendra plusieurs décennies pour rattraper et arriver à une égalité ou une équalité ou être tout proche, quoi. Alors, c'est très important qu'on donne un peu plus d'opportunités pour les femmes de faire partie des décisions, de faire partie de certains secteurs, parce que ça n'a pas été le cas pendant très, très longtemps. Alors, l'histoire est là, c'est une réalité, c'est documenté. Alors, pour arriver à égalité, on a besoin d'une discrimination positive pour quelques années. Mais ça ne veut pas dire que les personnes ou les femmes ne doivent pas être qualifiées, mais plutôt qui sont données plus d'opportunités. Et l'opportunité commence en éducation. Et c'est là que l'éducation est super importante, surtout dans les pays en voie de développement. On doit vraiment pousser pour plus et plus d'éducation.
Ismahan El Wafi, vous avez un dernier message pour nous?
Le message que j'aimerais laisser avec toi, Florence, c'est que cette année est une année très, très spéciale. C'est une année qui est après le COVID, où tout le monde, vraiment le monde, a compris qu'on est tous interconnected. Il y a rien, il n'y a personne qui peut vivre tout seul. Ni communauté, ni pays, pauvre ou riche, ou développé, pas développé, on est tous interconnected. Et le virus nous a aussi, le COVID nous a fait comprendre que pas seulement nous comme personne, on est interconnectés, mais aussi toutes les autres espèces. Et du coup, cette année est très importante pour prendre des bonnes décisions. On a non seulement cette année le sommet, on a le COP qui vient 26, on a la biodiversité qui est le COP 15, le COP 15, il y a la conférence des océans, et on a des forêts. Alors, il y a plusieurs choses qui se passent et on devrait prendre l'occasion de cette année qu'on est un peu plus unis, on est un peu plus proches, on comprend plus l'interconnectedness entre tout ça pour prendre les bonnes décisions. Parce que si on ne le fait pas, ça va être vraiment une opportunité perdue et une très, très grande opportunité perdue. Pour ça, il faut qu'on s'aligne, il faut qu'on se parle, il faut qu'on trouve des solutions. Et le plus important, que les solutions soient réalistes et qu'on les met en place ensemble.
Ismahan El Wafi, merci beaucoup pour cette interview.
Merci beaucoup, Florence, et à très bientôt.